Kiosque Magazine.
Bon matin tout le monde, à nos chers auditeurs, à Christine, à Daniel qui m'accompagne aujourd'hui. Et moi, c'est Louise Mercier. Alors, on va parler de divers sujets aujourd'hui, comme d'habitude. La première portion va parler du bonheur, dans le fond. Comment maîtriser l'art de décrocher, faire la sieste au bureau pour être plus productif, les bienfaits du jardinage, puis des filles et du houblon. Ça, c'est bon. Et la deuxième partie, bien, on va parler un petit peu plus de longévité et de, disons, troisième âge, oser à 72 ans. Il y a toutes sortes de titres dans la deuxième partie. Alors, Christine, toi, tes articles?
Bien, moi, je vais vous parler donc de brasseuse. Alors, de brasseuse, on parle du brassage de la bière, des filles qui brassent la bière.
C'est bon, ça, que ce soit des filles qui brassent
la
bière.
Voilà, donc c'est un peu inusité. Ensuite, je vous parlerai en deuxième partie d'émission d'un... C'est comme un petit conte que nous dit Serge Bouchard. On part un peu dans la langue autochtone.
D'accord. Et toi, Daniel?
Ben, il ne faut pas attendre les vacances pour maîtriser l'art de décrocher. C'est ce dont je vais vous parler. Et puis, on peut décrocher en faisant la sieste et être plus productif au travail. Et puis, cap sur la longévité. Comment durer en couple après la retraite?
Ah. Bon, mais ça semble tout bien intéressant. Alors, je vous souhaite une bonne émission à tout le monde.
Alors, tout d'abord, maîtriser l'art de décrocher, et puis pas juste en vacances, c'est un article de Monique Soucy qui est paru dans le 24 heures du mercredi 15 juillet. Alors, arrivez-vous à oublier le travail pour vous adonner à autre chose? Je ne sais pas si c'est votre cas. La capacité de décrocher est un talent, ou mieux, un art, il paraîtrait. Vous n'en pouvez plus d'attendre les vacances, mais il ne faut pas seulement qu'attendre les vacances. Il y a pourtant bien d'autres occasions de lâcher prise tout au long de l'année. Les pauses, il y a l'heure du lunch, les soirées, la nuit et bien sûr les fins de semaine. Plusieurs personnes, par contre, éprouvent des difficultés à prendre une distance par rapport au boulot. Elles y repensent constamment, vous en connaissez probablement, qui en parlent et en reparlent aux grandes dames de leurs conjoints ou de leurs amis proches. Le travail semble toujours présent dans leur tête. Certains n'arrivent même pas à décrocher après avoir discuté au cellulaire ou après avoir écrit un message texte à un collègue ou à leur patron. J'ai déjà entendu des clients se justifier en disant « Mon travail me passionne tellement » ou « Je suis tellement responsable ». Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase. Mais ce sont là des excuses trop faciles. Il y a des astuces justement pour décrocher. Et le premier pas, c'est pour apprendre à décrocher, c'est de réaliser qu'on a peine à le faire, donc en être conscient. Voici quelques stratégies. Vous repensez au travail, arrêtez immédiatement. Changez de lieu et faites autre chose pour vous occuper. Utilisez votre déplacement entre le bureau et la maison comme trait d'union entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Autre stratégie, en auto, écouter de la musique ou les informations du jour. Et dans le métro, quel plaisir, le bus ou le train de banlieue, lire un bon livre, faire des mots croisés ou un sudoku. Troisièmement, un problème vous hante, fixez-lui à ce problème un rendez-vous pour y réfléchir à 100% pendant 30 minutes ou une heure. Écrivez-le sur un bout de papier, rangez celui-ci et notez bien la date et l'heure de votre engagement. D'ici là, défense stricte d'y penser. Avant d'entrer au travail, une autre stratégie, engagez-vous à prendre un café afin de réfléchir sérieusement à une situation ou encore proposez à un collègue un rendez-vous à l'heure du lunch afin d'en parler ensemble. Et finalement, cinquième stratégie, vous devez demeurer en lien avec votre travail pendant vos vacances. Ça arrive, ça, des fois. Vous êtes sur un projet très, très urgent. Alors, voyez à minimiser le temps consacré à vos tâches. Soyez efficace et coupez radicalement le contact lorsque ces tâches sont terminées, puis activez-vous rapidement à faire autre chose. Alors, chaque chose a sa place. Pour décrocher réellement, il faut avant tout devenir un peu plus zen et savoir laisser le travail au travail. Lorsque vous le quittez, reprenez vos autres rôles de conjoint, de parents, de compagnons et d'amis. Ces autres facettes de votre personnalité méritent aussi d'être vécues pleinement. Vous connaissez, je suis sûre, sûrement le dicton qui dit « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ». Alors, visez, et c'est le grand mot du jour, visez l'équilibre. Cet été, pratiquez l'art de décrocher et profitez au maximum des moments de relâche. Une belle façon de faire relâche, et que ça fait du bien, ça. Je suis sûre qu'on le fait même sans travailler, mais faire la sieste au bureau pour être plus productif, c'est ce que nous propose cet article, dans cet article Marie-Claude Veillette, article paru dans le 24 heures, le mercredi 15 juillet. C'est de plus en plus répandu aux États-Unis ou au Japon. La sieste au bureau est encore tabou dans notre culture de la performance. Pourtant, plusieurs études le confirment. Un repos de 20 minutes après le dîner permet de rester mieux concentré sur son travail et donc d'être encore plus productif. On appelle ça le power nap, qui améliore également, ce fameux power nap améliore également le niveau de tolérance, la capacité d'accomplir certaines tâches difficiles ou frustrantes. Une étude menée par l'Université du Michigan indique qu'un petit roupillon après le dîner, bon, juste à y penser, il fait du bien, aiderait à réduire les comportements impulsifs au travail. Dormir est aussi bon pour la mémoire et les capacités intellectuelles. Les employés qui ont la chance de déconnecter du boulot une vingtaine de minutes par jour sont plus détendus, moins stressés et plus enjoués. Il s'ensuit ensuite une augmentation de la productivité, une baisse de l'absentéisme et des accidents de travail. C'est autant de bonnes raisons pour convaincre votre patron de vous laisser somnoler quelques minutes par jour. Mais comment rester concentré? Par exemple, si vous n'avez pas le droit à la sieste au bureau, il y a des moyens de le faire. Il y a quelques trucs. Mangez suffisamment de fibres et de protéines au déjeuner et au dîner et buvez beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Réduire votre consommation de caféine. Vous pouvez aussi vous asperger votre visage d'eau lorsque vous êtes fatigué ou utiliser un brumisateur d'eau. C'est mauvais pour le maquillage, mais en tout cas. Respirez un peu d'huile essentielle de romarin et de menthe poivrée, reconnue pour leurs effets revigorants. Prenez une collation qui combine glucides et protéines et finalement, sortez prendre l'air.
Je pense que certaines personnes qui auraient besoin d'amener l'étude pour convaincre leur patron qu'une sieste est productive.
Ou inviter le patron à venir dormir un petit 20 minutes.
Hein?
En cuillère, peut-être.
Ça dépend des industries.
Ça dépend, oui.
Voilà. Alors, on va passer des bienfaits de la sieste aux bienfaits du jardinage. Un article publié par Nadine Deschenaux dans la presse Plus du 20 juillet dernier en collaboration spéciale. Si on se fie aux photos de bonheur étalées jour après jour sur Facebook, sur lesquelles on voit les gens, une tasse de café à la main, devant leur jardin fleuri en disant « ça, c'est la vraie vie », on a spontanément envie de croire que les fleurs, les végétaux et la nature nous font du bien. Bien sûr, les bienfaits physiques du jardinage sont indéniables. Selon les données de la revue de la littérature sur les bienfaits des produits de l'horticulture, ornementale sur la santé et l'environnement, 30 minutes de jardinage permettraient de brûler de 120 à 200 calories. Mais bien plus encore, les végétaux ont un effet réel sur le bien-être. Selon ce même rapport, les jardiniers auraient une perception plus positive de la satisfaction de vivre que les non-jardiniers et évalueraient leur état général à un meilleur niveau. La réduction du stress est aussi observée et vient conforter l'idée de certains pousses verts qui affirment chasser leur anxiété en se défoulant sur leurs mauvaises herbes. La nature prend soin de nous? Oui et non. On prend davantage soin de nous quand on est en contact avec elle. Une force de transposition dont on ne se rend pas compte, mais qui calme nos tourments, soulage divers maux et redore notre estime de soi. Scène échappatoire. On est très rarement dans le présent. Les émotions négatives et le stress sont liés au fait qu'on est souvent en train de ruminer le passé ou encore on anticipe quelque chose de négatif. Le jardinage nous ramène dans le moment présent. C'est pourquoi c'est une activité aidante pour certains, estime Bianca D'Antono, professeure agrégée au département de psychologie de l'Université de Montréal et chercheuse à l'Institut de cardiologie de Montréal. L'attention que requiert le jardinage permet au lâcher-prise d'opérer. On y arrive car on est attentif à ce qui se passe maintenant et aussi parce que notre esprit est absorbé dans une tâche répétitive qui devient apaisante, note Lucie Mandeville, psychologue spécialiste de la psychologie positive. Voilà pourquoi le jardinage est considéré comme une activité méditative, mais en mouvement, un peu comme le sont certains arts martiaux et le yoga. Un pouvoir thérapeutique? Presque. Quand les émotions nous submergent, un tour au jardin peut être efficace pour faire un ménage en soi, principalement parce que jouer dans la terre nous détourne de nos soucis. D'abord, on centre notre attention sur une tâche qui demande une certaine concentration. Ensuite, en la dégageant suffisamment longtemps de nos problèmes, on arrive à voir la situation autrement et à agir dans le meilleur intérêt au lieu de réagir spontanément, explique Bianca D'Antono. D'autant plus que les travaux manuels sont satisfaisants, car leurs résultats sont concrets et visibles. Plus on arrache de mauvaises herbes, plus il y a de l'espace, plus la plate-bande est belle. Et inconsciemment, bien des jardiniers ont l'impression de transposer ce ménage végétal dans leur vie intérieure. Acte de création. Cultiver des fleurs incite aussi à se raccorder à la temporalité. On suit davantage les valses des saisons. On s'harmonise au rythme du temps. Cette communion avec la nature nous fait comprendre qu'on en fait tous partie. On donne et on reçoit, on prend soin de quelque chose qui nous redonne, on met en terre, on donne de l'amour et de notre temps, etc., note Mélanie Grégoire. Jardiner est également un acte de création, puisque nous sommes habitués à vivre dans un monde rationnel où la productivité est l'ultime but et où l'organisation règne. Le jardinage vient contrebalancer le tout en exigeant qu'on réveille notre imagination. Certains ont enfin l'opportunité de laisser leur côté créatif s'épanouir. En créant, ils contribuent à l'embellissement autour d'eux, tout en ayant le sentiment d'appartenir et de redonner à quelque chose de plus grand, évoque Bianca D'Antono. C'est extrêmement gratifiant. En semant une petite graine, on a accès à l'enfantement dans une moindre mesure. On a le sentiment de faire partie de la nature, d'être connecté à quelque chose de plus grand, d'y contribuer et d'y avoir même un certain pouvoir. Et enfin, un pouvoir sain, celui de créer pour nous et aussi pour notre environnement. On est à la fois un artiste et un créateur, et ça, dans notre vie de tous les jours, on n'a pas toujours accès à ce type de valorisation et de réalisation, constate la psychologue Lucie Mandeville. Coup de pouce vert pour l'estime de soi. S'ancrer dans le temps, prendre conscience du temps qui passe est un autre bienfait. Un enfant grandit beaucoup entre 0 et 10 ans. C'est pourquoi les oncles et les tantes, qui ne le voient pas souvent, s'exclament « Ah, tu as bien grandi. » À petite échelle, avec les semences, c'est la même chose. On les voit pousser, changer et grandir tout au long de l'été. Ça devient une fierté. Plus encore, vivre plus près de la nature nous offre des repères. On voit l'évolution des plantes, mais plus encore. Les sons ne sont pas les mêmes. Les oiseaux chantent, mais ce ne sont pas les mêmes tout au long de l'été. Les cigales arrivent avec les chaleurs. Tout ce qui marque le temps devient rassurant. Semer une graine, c'est aussi entretenir l'espoir. C'est croire que la nature va opérer. C'est oser imaginer demain. C'est voir ce qui n'existe pas encore. Tout ce qu'on fait est souvent basé sur le visuel. On juge beaucoup par l'apparence de ce que nos yeux captent et que notre cerveau analyse. Pourtant, notre mémoire olfactive, par exemple, est très puissante et fidèle. Beaucoup de nos souvenirs sont associés à des odeurs. Les petites fraises, le gazon frais coupé, etc. On se souvient plus de quelque chose quand on y a touché ou goûté. Plus on fait intervenir de sens, plus on va découvrir, plus on retient des choses, souligne Marie-France Larochelle. Au Jardin botanique de Montréal est aménagée la Cour des sens, un espace où les visiteurs sont invités à laisser leurs yeux à l'entrée et à réveiller leurs autres sens. Des animateurs, dont deux non-voyants, proposent une visite étonnante et multisensorielle. Les visiteurs peuvent toucher, sentir les fleurs et même y goûter. Beaucoup sortent de cette cour totalement émus par leur découverte, raconte la conseillère horticole de l'endroit.
Ce qui était belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je vois. Les gens qui s'occupaient de la santé publique ont crié au scandale quand je leur ai dit ça. Je les invitais donc à venir très vite participer à cette expérience avec moi. Une fois que nous eûmes effacé toute forme de modération, nous fûmes en émoi de constater qu'au lieu de ces vilaines formes étaient nées les courbures les plus belles qui soient. Et les apothicaires ont repris tous en cœur ce qu'elle est belle quand t'as bu, ce que t'es belle quand on boit, ce que t'es belle quand j'ai bu. Je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je bois. Et ce dont la morale était plutôt statique m'ont dit qu'on ne pouvait traiter l'autre comme ça. Je les invitais donc à venir sans réplique participer à cette expérience avec moi. Une fois envolés les préceptes énormes qui dictaient nos conduites, nous fûmes sans émoi de constater qu'au lieu de ce visage mort n'était née la figure la plus douce qui soit. Et les gens pleins d'éthique ont repris plein d'émoi ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on boit, ce que t'es belle quand j'ai bu. Je regrette de n'avoir pas fait d'autre abus, tellement t'es belle quand je vois. Et ceux qui s'occupaient du savoir esthétique, ceux qui se demandaient au fait le beau c'est quoi, m'ont dit que la beauté n'est jamais éthylique, mais venez donc tenter l'expérience avec moi. Une fois envolée toute définition de ce qu'est la beauté, nous fûmes sans émoi de voir que tu avais plein de conversations et même des plus enrichissantes qui soient. Et les intellectuels ont repris dans la joie ce qu'elle est belle quand t'as vu, ce que t'es belle quand on voit. Et les gens pleins d'éthique, et les intellectuels, et les femmes activistes, et puis même ton frère, et le frère de ton cousin, entonnèrent dans le cœur ce merveilleux refrain. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois. Ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus, tellement t'es belle quand je vois.
Christine au micro, bonjour, ce 22 juillet. Alors, cette semaine, j'ai retenu pour vous dans le magazine Châtelaine d'août 2015 un article bien rafraîchissant d'Anne-Marie Lucas, à commencer par le titre qui a une résonance cinématographique, « Des filles doux ou blonds ». D'ailleurs, je remercie en passant Mathieu qui nous a mis cette belle chanson « Ce que t'es belle quand j'ai bu » d'Alexis HK. Alors, Anne-Marie Lucas, en introduction, nous dit en préambule, depuis le 2002, le nombre de brasseries a quadruplé au micro au Québec, passant à 120. Les étiquettes se multiplient, les boissons se raffinent et les filles sont de plus en plus présentes. Alors, trois d'entre elles donc, vont nous faire découvrir leur univers. Voici ce qu'elles nous disent. Catherine Dionne Foster est brasseuse et propriétaire à la Korrigan. Elle concocte des bières. Dans sa petite brasserie du quartier Saint-Roch à Québec, Catherine Dionne Foster ajoute au moût en ébullition des aromates choisis avec soin. Bleuet sauvage du Saguenay, thé du Labrador. L'été dernier, raconte-t-elle, j'ai goûté au miel aux pétales de rose sauvage dans un marché. Il était si délicieux que j'en ai créé une bière. Donc là, je fais un petit écho, pardon, J'ai toujours mon chat dans la gorge. Un petit écho aux expériences multisensorielles de Louise dans son jardin botanique. Et puis on, également donc, des recettes du bonheur comme la sieste, hein, bien sûr.
La fameuse sieste.
La fameuse sieste. D'ailleurs, nos chaises qui grincent, non, on n'était pas en roupillon, c'est les chaises qui ont grincé tout à l'heure. Au Québec, les brasseuses, c'est-à-dire celles qui mettent au point les recettes, donc on poursuit Anne-Marie Lucas, se comptent sur les doigts d'une seule main. Le Boys Club des artisans de la bière n'en est pas vraiment un. Pardon. Dans ce milieu, les filles sont accueillies à bras ouverts, constate Catherine, même si peu d'entre elles brassent. Pardon. Cette Saguenéenne d'origine a connu tôt les arômes du mot. Il montait du sous-sol familial où son père fabriquait de la bière. Ça sentait tellement bon. En 2008, quand le bistrot où son paternel exerce ferme ses portes, Catherine décide de reprendre le flambeau. Elle abandonne sa carrière de géologue pour devenir l'apprentie de papa. 2 ans plus tard, le pub La Korrigane voit le jour. La sympathique microbrasserie, avec sa terrasse potagère, est désormais un lieu de rencontre prisé dans un quartier largement asphalté. On y produit la bière, 500 litres à la fois. Le plaisir d'être petit, dit Catherine, c'est qu'on peut s'amuser avec la matière première et faire participer les clients comme goûteurs. Mireille Allard, c'est une copropriétaire houblonnière, qu'elle dit lupuline. Alors, je n'ai pas encore trouvé ce que ça signifie, lupuline. Si vous avez la réponse, on la veut bien. Elle cultive le houblon. À la fin de l'été, pendant 2 ou 3 semaines, Mireille Allard passe la plupart de ses nuits dans la grange. Toutes les 2 heures, elle se lève pour tâter les cônes du houblon dans l'énorme séchoir. Au moment de la récolte, la plante contient entre 75% et 80% d'humidité, explique-t-elle. Elle doit attendre un niveau de 8 à 9% avant qu'on la retire du séchoir. Si on dépasse ce stade, on perd tout. Je ne dors pas beaucoup, mais j'adore ce rush. Cette ancienne soudeuse possède, avec son frère Charles, l'une des plus grosses houblonnières au Québec. 10 acres à l'île aux Allumettes, en Outaouais, où il cultive une dizaine de variétés de la vivace grimpante. Les récoltes vendues à 12 microbrasseries québécoises et ontariennes servent exclusivement à la fabrication de la bière. Avec le malt d'orge, la levure et l'eau, le houblon est l'un des 4 ingrédients de base des recettes brassicoles. Ces inflorescences, donnent à la boisson son amertume et une partie de ses arômes particuliers. Ce qui fait dire à Mireille, on ne peut pas cultiver le houblon sans connaître la bière. Quand elle parle de ses cultures, les yeux pétillants, elle nous donne envie de goûter le houblon de chaque produit. Amatrice de bière de micro, Mireille caresse maintenant le projet de produire sa propre recette. Notre troisième interviewée, Mirella Amato, est experte S-bière. Alors, il y a des experts S-vin, les sommeliers, en l'occurrence, donc Mirella, puisque c'est une franco-ontarienne d'origine italienne, elle répond à la bonne nouvelle, nous dit l'auteur. Si tu pouvais faire n'importe quoi, quel serait ton rêve? À cette question posée par un ami entre 2 gorgées de blonde, Mirella Amato répond « J'écrirai un livre sur la bière artisanale ». Nous sommes en 2006, dans un petit bar torontois. C'est l'élément déclencheur. Mirella délaisse bientôt sa carrière de chanteuse d'opéra pour plonger dans le monde du houblon. D'abord, elle brasse. Mais être toute la journée dans les cuves lui semble un travail trop solitaire. Alors elle se renseigne, étudie, rencontre des connaisseurs et finit par se créer un boulot sur mesure en fondant Beerology, entreprise spécialisée en formation et en consultation. À 39 ans, Mirella est aujourd'hui une sommité dans son domaine. Chroniqueuse, juge dans des concours, conférencière, organisatrice de dégustations. Elle est également l'instigatrice de la division torontoise de Barley's Angels, une association mondiale pour les amoureuses de la bière. Elle passe régulièrement au Québec, où elle anime des ateliers et participe à des événements comme le Mondial de la bière. En mai 2014, Mirella a publié son livre « Beerology, Everything You Need to Know to Enjoy Beer », donc tout ce que vous voulez savoir pour prendre plaisir à prendre de la bière. Et même plus, even more, elle espère qu'il sera traduit en français sous peu, et nous aussi. Retour à l'histoire. Alors Anne-Marie Lucas nous fait un petit topo sur les pionnières. Donc pour terminer l'article, le voici. Au Québec, pendant longtemps, boire de la bière n'était pas très bien vu pour une femme. Laura Urtnowski, qui a confondu les brasseurs du Nord, s'en souvient. La publicité visait exclusivement les hommes. Celles qui arrivaient sur le marché du travail prenaient plutôt du vin blanc ou des cocktails. À À la fin des années 80, quand elle lance son entreprise avec deux associés, elle est l'une des premières filles à pratiquer le métier de brasseuse. Nous étions deux, Hélène Bonzal, de la brasserie McCulland, et moi. Depuis, les choses ont changé. La Brou raille aujourd'hui les épicuriens des deux sexes, qui discutent texture, arôme, flaveur, accord mes bières. En parallèle, les métiers afférents ont pris un nouvel essor. La première cohorte d'étudiants au programme sommelier bière donné par la Cité, un collège d'Ottawa, a été diplômée au printemps. Le tiers sont des filles.
Maintenant, au bref, on va parler de légumineuses. L'ONU désigne 2016 Année des légumineuses par Marie Allard dans la presse. Les Nations unies ont désigné 2016 Année internationale des légumineuses. Il n'y a pas de quoi en faire un poids. Au contraire, le Canada est le leader mondial de la production de lentilles et de pois secs. Pour l'occasion, Pulse Canada, l'association des producteurs canadiens de légumineuses, a envoyé à la presse une mégabyte. Cette petite barre de collation qui a l'avantage de contenir 6 g de protéines et 4 g de fibres par portion de 40 g est fabriquée avec des lentilles, des dattes, des flocons de haricots, du chocolat, des protéines de pois, de la mélasse, etc. Au goût, ça rappelle un bon gâteau aux épices et aux dattes, avec une texture trop dense dans laquelle on retrouve des éclats durs. La Megabyte est un prototype pas encore commercialisé. Avis aux intéressés, l'entreprise Larabar vend déjà des barres fabriquées avec des protéines de pois. Les légumineuses, c'est-à-dire les plantes récoltées uniquement pour l'obtention de grains secs, ont leur place dans un régime alimentaire anti-obésité qui permet de lutter contre des maladies chroniques, diabète, maladies coronariennes, cancer, etc., selon l'ONU. Ces plantes ont aussi des effets bénéfiques sur l'environnement, en fixant l'azote dans les sols, ce qui améliore leur fertilité. Légumineuses du futur, le choix du président propose des croustilles faites avec des farines de lentilles, pois chiches et haricots adzuki. La demande américaine d'isolat de pois est prête à exploser.
Alors, au retour, on va avoir à 9h30 comment durer, pas s'endurer en couple après la retraite. Alors, cap sur la longévité, il sera question aussi de grand-mère et d'oser à 72 ans. Alors, il n'y a rien de plus triste que de voir un couple à la retraite qui dure, mais qui semble plus s'endurer. C'est l'article, justement, on va peut-être essayer de prévenir avec cet article de Sophie Gagnon qui est tiré du magazine Virage du réseau FADOC. Le FADOC est Fédération de l'âge d'or du Québec. Cap sur la longévité. Voici des facettes, justement, de votre vie de couple à cultiver pour franchir avec succès la transition de la retraite à deux. Ce sont des affirmations. Il y a quelques affirmations dont je vais vous parler, qui font partie des quelques 30 points de repère parus dans Cap sur la retraite de Marie-Paul Dessin. Alors tout d'abord, vous vous soutenez quoi qu'il arrive. Vous savez que l'autre sera toujours là pour vous et c'est réciproque. Vous éprouvez simplement du bonheur et de la joie ensemble. Vous aimez jouer et vous amuser ensemble. Vous n'attendez pas que votre partenaire comble tous vos besoins et se charge seul d'organiser vos activités de retraite. Dans une discussion, vous réagissez toujours de façon positive, empathique, constructive aux émotions pénibles de l'autre, comme la colère, la tristesse ou la jalousie. Ce qui est important aussi, c'est de manifester régulièrement votre reconnaissance à votre partenaire pour tout ce qu'il ou qu'elle fait pour votre couple ou votre famille. Vous partagez aussi des valeurs profondes comme l'honnêteté, le courage, la famille, etc. La retraite, justement, on en parle, c'est l'occasion d'évoluer ensemble. La retraite, je le sais, ça vous fait rêver, moi aussi, tout le monde autour de la table, mais c'est le moment du repos, la détente, tant attendue, et de la réalisation de multiples projets et même de fantasmes. Mais qui dit retraite dit aussi changement, et ça, je pense qu'on l'oublie. Transition et nouveauté, et c'est un moment aussi charnière dans la vie d'un couple. Un couple prudent saura reconnaître le piège et éviter ainsi de faire partie des statistiques. Car, malheureusement, dans les 5 ans suivant la retraite, écoutez bien, un couple sur 4 se sépare. Mais heureusement, Marie-Paul Dessin propose des pistes. Dans bien des cas, elle dit, la retraite n'est pas la cause de la séparation. C'est plutôt un déclencheur. Les partenaires n'ont pas pris le temps de comprendre ce qui se passait, ni tenté de trouver des solutions. Même si l'on pourrait croire que monsieur demande plus souvent la séparation, le divorce, afin de refaire sa vie avec une femme plus jeune, le cas classique, c'est madame, dans environ 70 % des cas, qui met fin à l'union. La raison principale? Un ras-le-bol généralisé d'une relation décevante et exempte d'intimité. Lorsque les hommes prennent la décision, ils évoquent plutôt l'absence de sentiments et des styles de vie différents. Les causes. Selon l'auteur, il y a 3 types de raisons qui expliquent la fin de tant d'unions au long cours. Souvent, ça se passe dans la soixantaine. Tout d'abord, il y a le couple lui-même. Le couple qui ne fonctionnait plus depuis des années, sinon même des décennies. Absence d'intimité, partenaires qui se sont perdus de vue à cause du travail, des enfants, des activités personnelles. Et aussi, il y a l'éclatement de conflits non résolus. L'autre raison, c'est la transition à la retraite. Il y a des changements qui sont vécus différemment, pas au même moment ni à la même intensité par les 2 partenaires, les projets immédiats qui ne coïncident pas. Il y a aussi le vide laissé par la disparition des activités professionnelles, l'absence d'échanges sur les inquiétudes et aussi sur les projets liés à la retraite. Il y a des problèmes aussi de liberté. 3e raison, et non la moindre, le temps qui file, l'urgence de vivre, le bilan des rêves non réalisés, des compromis. Il y a aussi peut-être la maladie de l'autre et le repli sur soi alors que l'autre s'éclate. Marie-Paul Dessin déplore que bien des unions de longue date soient jetées avec l'eau du bain de la retraite. Le bonheur à tout prix et le manque de communication précipitent bien des séparations. Pourtant, cette transition est une occasion d'évoluer ensemble, une proposition que la vie nous fait de réaménager notre vie à notre façon, avec enfin moins de stress et plus de temps. Selon l'auteur, notre conjoint est notre meilleur médicament. Les statistiques étant éloquentes sur les avantages pour la santé physique et mentale de vivre en couple plutôt que seul. Et que dire des bienfaits de toucher et d'être touché? D'embrasser, de partager des fous rires à deux, de vivre une intimité véritable sur une longue période. Les solutions, l'auteur suggère au couple de ne pas se séparer tout de suite si des problèmes se présentent au moment de la retraite. Laissez passer tout le stress lié à cette transition qu'amène la retraite avant de prendre la décision de vous séparer, ce qui affectera toutes les sphères de votre vie, tant familiale, sociale que financière. Il ne faut pas oublier non plus que la retraite compte pour 45 unités sur l'échelle de stress, dont le maximum est 100. Donc, c'est un haut taux de stress. Alors, elle vous suggère des conseils pour réussir le rééquilibrage de votre vie à deux. C'est que, entre autres, planifiez votre retraite individuellement et en couple. Deuxièmement, si possible, ne pas débuter la retraite ensemble. Et en même temps, la retraite du conjoint ajoute 26 à l'échelle de stress, qui est déjà élevée. Se donner du temps, avoir des projets, ils n'ont pas besoin d'être exceptionnels. Envisager aussi une retraite progressive, un changement de carrière, un travail à temps partiel. Cultiver l'intimité tout au long de la vie de couple. Ne pas déménager trop vite, ce que les gens font souvent, et emménager dans trop petit. Gérer l'espace et le temps libre ensemble. Établir un équilibre entre les activités communes et personnelles. Et surtout, 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 communiquer, communiquer, communiquer. Attention aux attentes non verbalisées, aux rêves non confiés. Ça évite justement de faire éclater des crises. En somme, pour réussir la retraite à deux, il faut s'en parler. La retraite, C'est une occasion d'évoluer ensemble, une proposition imaginée que la vie nous fait de réaménager notre vie à notre façon, avec moins de stress et plus de temps.
Bon, bien, j'ai pas besoin de me présenter avec ma voix, Christine au micro, donc. Communiquons sur la route des vacances. On voit souvent des mots, de jolis noms de lieux, de villages, et c'est souvent le début d'une histoire. Je fais une répétition, pardon. C'est donc le début d'une histoire d'un fil d'Ariane qui, si on le tire, peut nous faire voyager dans le temps ou pour de vrai. Alors, je prête ma voix à Serge Bouchard, qui a publié dans sa chronique « L'esprit du lieu du Québec, de Québec Science » de juillet 2015, un article qu'il a écrit un peu comme les contes et légendes et qui s'intitule « Nos grands-mères s'appellent toutes Nokomis ». Il y a dans les noms de lieux des enseignements précieux. Mais il arrive que l'on s'habitue trop vite à un nom. Nous avons l'oreille molle, peut-être même l'oreille morte. Plus rien ne nous interroge ou ne nous émerveille lorsque nous entendons les beaux noms défiler. Je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire du peuple Innu, nous dit Serge Bouchard. Je termine justement un long passage qui souligne entre autres choses que l'Innu Aymon, la langue des Innu, appartient à la famille des langues algonquiennes, qu'elle est très semblable à celle des Eyu, donc cette communauté du Bay James, chez les Cris, et qu'elle affiche une remarquable continuité spatiale dans cette variante parlée, de la ville d'Equanitsit, dans le Mingan, jusqu'à la traverse des Pieds Noirs aux environs de Calgary, dont je vous disais qu'on voyage. On y est. Les linguistes l'ont beaucoup étudié au fil du temps, à l'instar des langues algonquiennes en général. L'Innu Aymon est encore bien vivant aujourd'hui. Il fait partie de notre patrimoine à tous. Récemment, dans les médias, à l'annonce du décès d'un joueur de hockey célèbre, très cher aux vieux amateurs des Canadiens de Montréal, on a pu entendre prononcer le beau nom de Nokomis. Donc Elmer Lac, le grand compagnon de Maurice Richard, qui s'est éteint d'ailleurs en avril, je crois bien. Elmer Lac, le grand compagnon de Maurice Richard, était originaire de la communauté de Nokomis en Saskatchewan. Cette petite ville existait depuis à peine 10 ans lorsqu'il y est né, en 1918. Une gare, un hôtel, un magasin général, un bureau de poste, Nokomis se résumait alors à peu de choses. Nous parlons bien d'une petite ville dans le Far West. Le chemin de Verne, du Grand Trunk Pacific, s'arrêtait en effet à cet endroit que l'on nomma d'abord Johnson City. C'est la maîtresse de poste qui le rebaptisa Nokomis en 1908, après avoir lu le grand poème épique de Henry Longfellow, The Song of Hiawatha. Nokomis tombée de la lune est la grand-mère du héros et la maîtresse de poste s'appelait Florence. Voici donc un bel exemple de la continuité de la grandeur des langues algonquiennes. Nokomis signifie « ma petite grand-mère » dans la langue des Cris des Plaines, tout comme en Innu Aymon contemporain. D'ailleurs, la vigne québécoise de grand-mère tire elle-même son nom d'un immense rocher dont la forme évoque le profil d'une vieille femme et qui servait autrefois de repère aux Amérindiens sur la rivière Saint-Maurice. La belle rivière Saint-Maurice. Selon la commission de toponymie du Québec, donc qui étudie les lieux, les Algonquins appelaient ce rocher Kokomis et les Abénakis Kokomesna, ces deux noms signifiant respectivement la grand-mère et notre grand-mère. Au passage, je salue d'ailleurs mes amis du Canard Meadow, sur le bord du Saint-Maurice, qui ont un gîte et l'une de leurs chambres s'appelle Kokomis. Je vous invite à leur rendre visite. Lorsque le petit garçon nommé Elmer Lac jouait au hockey sur les étangs gelés des grandes prairies, et Dieu sait qu'ils étaient gelés ces étangs, il patinait au milieu des premières mines de charbon et des futurs puits de pétrole. Malgré cela, malgré toutes ces richesses naturelles aussi sales que prometteuses, Nokomis n'est pas devenue la plus grande ville de l'Ouest canadien comme ses habitants l'espéraient en 1908. Elle est demeurée une petite place écartée dans le plus célèbre citoyen, qui s'est gagné le trophée Hart et 3 coupes Stanley, a été intronisée en 1966 au temple de la renommée du hockey. Il y a beaucoup de Manitou dans ces coins-là du Canada. Le petit lac s'est sûrement baigné en été à la plage Manitou, tout près de Nokomis. Le Manitou est la grande force des Algonquiens des temps classiques, le principe même de la vie, une sorte d'Allah ou de Dieu, sans port d'attache. Bien peu de Canadiens connaissent le sens des mots Saskatchewan et Manitoba. En cri, le premier signifie « courant rapide » et le second « passage du Grand Esprit » ou du Manitoba. Le Grand Lac Winnipeg signifie « une mer où l'eau sent quelque chose » et le lac Winnipegosis, sans doute « petite mer où l'eau sent quelque chose » car « osis » est un diminutif et en effet ce lac est plus grand que le Grand Lac Winnipeg. Oui, lors du décès des mères lacs, à l'intention de nos enfants Innu et You, Anishinaabe, mais aussi de tous nos enfants du Québec, nous aurions eu une belle occasion de faire ces liens. Ma petite grand-mère, lieu de naissance du numéro 16 des Canadiens, nos Comis, la langue des Cris qui est celle des Innu, les noms algonquiens des provinces, des lacs et des villes, et ainsi de suite. Une belle occasion donc qui nous aurait fait parler de la fierté des Premières Nations, de Carey Price, des Chilcotins dans les Rocheuses, du rocher de grand-mère qu'on a transporté pierre par pierre des eaux de la rivière Saint-Maurice jusqu'au cœur de la ville en 1912, et ce pour faire place à une centrale hydroélectrique, de la poésie américaine, du Manitou qu'on entendait jouer du tambour sur une plage du lac Manitoba, et d'autant de sujets passionnants pour des jeunes en mal d'histoire. Alors, je vous écris, termine Serge Bouchard, tout cela au moment où débutent les séries éliminatoires du hockey. Je vous écris face à la rivière des prairies où défilent les glaces dans le courant rapide. Et oui, c'est Saskatchewan, c'est ce que ça signifie. Et je me dis que cette eau sent la coupe. On parle de la coupe Stanley, mais on sait qu'elle était gagnée par Chicago. Et effectivement, Serge Bouchard, à cette époque, il devait écrire cet article cet hiver, j'imagine. Alors voilà, donc je vous invite à, sur la route de vos vacances, à peut-être vous arrêter un peu plus sur les noms des lieux que vous traverserez. Bon voyage.
J'aime ta grand-mère. Je veux un amour qui se passe de commentaires. Je veux refaire le tour en passant par en arrière. Je veux qu'aujourd'hui soit encore plus parfait qu'hier. Et les mains dans les airs, je ne peux plus me taire. J'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. Je dirais j'aime ta grand-mère. Nous partirons ensemble pour le sud en hiver. Nous roulerons comme des flèches dans le désert. Les poumons remplis de quelque chose de sincère. Et la crème solaire, la fumée, la poussière. Le front en sueur dans la chaleur de la lumière. Le bruit du moteur et les roues qui lèvent la terre. Partout l'odeur de notre bonheur d'être une paire. Et au loin derrière, le chant des supporters. J'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. Je dirai j'aime ta grand-mère. Je veux goûter aux avantages sans savoir-faire. Je veux la moitié que l'on garde pour le dessert. Je veux la beauté des beautés quand c'est éphémère. Et les mains dans les airs, je chanterai haut et clair. J'aime ta grand-mère. Je veux que ma première soit sa dernière. J'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. Je dirai j'ai.
Alors, de retour à Kiosque Magazine avec la chanson « J'aime ta grand-mère » des Trois Accords. Alors, on va continuer dans le même ton. Osée à 72 ans. Alors, c'est une grand-mère qui s'est fait tatouer. Donc, j'imagine que ça serait peut-être une grand-mère au goût des Trois Accords. Alors, ça a été publié le 10 juillet 2015 dans la presse par Isabelle Morin. J'avais souvent pensé me faire tatouer sans jamais oser franchir le pas, avoue cette belle dame aux cheveux argentés, aujourd'hui âgée de 76 ans. Un événement tragique sera le déclencheur de cette audace. Dans le fond, tout le monde en a envie, mais on attend souvent une motivation pour faire le saut, pense Janine Labrec. Dans son cas, l'élément déclencheur s'est pointé à la mort de sa jeune sœur, décédée de manière subite dans un accident de motoneige il y a 4 ans. Un coup dur. Janine ne connaît pas le sens de ce symbole tribal qu'elle porte sous la nuque et elle ne s'en soucie guère. Sa sœur en portait un semblable, c'est ce qui compte. J'ai toujours trouvé son tatouage vraiment beau et elle m'incitait souvent à en faire un. À sa mort, j'ai décidé de le reprendre. Ce sceau est le lien qui l'unit à celle qui fut sa complice, une marque indélébile dont s'est imprégné son cœur autant que sa peau. Un révélateur. Janine a choisi de se faire tatouer au même endroit que sa cadette, ou presque, un peu plus bas pour être juste, afin de pouvoir cacher son tatouage sous un chemisier. Aujourd'hui, elle considère qu'il fait partie d'elle. Dans le fond, j'ai trouvé un bon prétexte pour faire la délinquante, et ça fait aussi partie de ma personnalité. En général, on lui reconnaît une certaine extravagance, un goût pour les belles toilettes et les grands chapeaux. Je mets le paquet. C'est moi. Je ne le fais pas pour impressionner, j'aime simplement être différente, mais sobrement. Prête à récidiver? À son âge, ce serait une folie. On vit tout de même avec pour le restant de ses jours, précise-t-elle. Mais il lui arrive parfois, en voyant les pièces colorées ornant d'autres corps, d'avoir envie de répéter l'expérience pour le plaisir de porter ce qu'elle considère être un bijou de corps. Ce prochain tatouage serait plus artistique. Plus élégant peut-être, nous explique-t-elle à la manière d'une personne qui met bien trop de détails à exposer son prochain coup pour qu'il n'ait d'abord été mûri. Cette fois, il sera rempli de couleurs qui exprimeront toute sa joie de vivre. Alors, en parlant de la beauté corporelle, j'ai bien aimé, il y a eu un mouvement hashtag Je suis belle sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Il y a un article là-dessus de Anne Guénière qui a été publié dans la presse du 18 juillet. Alors, 10 blogueuses québécoises ont fait le buzz sur les réseaux sociaux cette semaine après avoir publié une photo d'elles en maillot de bain sous le mot-clic hashtag Je suis belle. Loin de faire preuve de narcissisme, elle revendique un acte de militantisme pour faire accepter la différence. Une mouvance actuelle dans les réseaux sociaux pour combattre les standards de beauté imposés par la société. Elles ont la trentaine ou la quarantaine, certaines sont plutôt minces, d'autres plutôt rondes. La plupart sont mamans et leur corps, leur ventre en particulier, en portent les traces. Les vergetures ne se cachent plus. Annie Clermont, une des premières à avoir suivi le mouvement en publiant une photo d'elle en maillot de bain sur son blog, le journal d'Annie, les appelle ses lignes de vie, chacune correspondant à une grossesse. C'est pour certaines la première fois qu'elles osent se montrer en public en maillot de bain ou qu'elles portent un bikini. Annie Clermont, qui a souvent été victime de moqueries à l'école, est aujourd'hui réconciliée avec son corps. Avec la bénédiction de ses ados, elle a choisi de publier sa photo le jour de ses 43 ans. Comme un symbole de son acceptation. Mais il y a encore quelques années, j'aurais été incapable de faire ça, avoue-t-elle. Quant à Julie Philippon, 42 ans, elle avait l'habitude de se baigner en maillot une pièce. Ça m'a pris 42 ans pour oser porter un deux pièces, raconte-t-elle. J'ai découvert que je pouvais me sentir bien, voire belle, sentir l'eau sur son corps plutôt qu'une jupette et des mètres de tissu, c'est merveilleux. Mardi, après avoir longuement réfléchi, elle est allée plus loin. Elle a posté plusieurs photos d'elle en bikini sur Facebook et Instagram. Pas pour me montrer ou me faire dire que je suis belle, mais pour dire aux autres de s'assumer telles qu'elles sont, parce qu'elles sont belles comme ça. Une tendance. C'est bien là le message que ces femmes ont voulu lancer au plus grand nombre, ce pourquoi elles ont choisi les réseaux sociaux pour s'exprimer. À leur grande surprise, des hommes, ventripotents ou très poilus, leur ont écrit pour dire qu'eux aussi subissaient le culte du corps parfait et n'osaient pas se montrer torse nu sur la plage. Elles en ont reçu des commentaires, louangeurs pour la plupart. Certains, en revanche, leur reprochent d'être narcissiques, les accusent de chercher à attirer l'attention sur elles. Ben oui, mais pas sur moi. Je cherchais à avoir le plus d'attention possible, surtout des femmes, afin de passer un message. Sentez-vous belle, même si votre corps a changé avec les années, les grossesses, lance la blogueuse Marie-Noëlle Marino. Une vie marginale et heureuse. Devant le nombre de partages et de femmes qui ont publié une photo d'elle pour répondre à l'appel, Marie-Noëlle Marino est satisfaite de l'impact de la campagne hashtag Je suis belle. C'est une étape de plus. Plus les gens oseront se montrer comme ils sont, moins ça choquera et plus l'image renvoyée par la société changera, estime-t-elle. Hashtag Je suis belle n'est pas le premier mouvement d'opposition aux standards de la beauté lancé sur les réseaux sociaux. Ils sont plutôt nombreux, en fait, à l'instar de hashtag Love Your Lines récemment. Dans les médias dits traditionnels également, les articles et surtout les photos de mannequins taille plus se multiplient. On sent que ça bouge un peu, souligne Annie Clermont. Depuis 2 ou 3 ans, il y a plus de jolis vêtements faits pour les tailles plus, comme si la société nous donnait une certaine place. Dans leur blog et dans leur vie quotidienne, les instigatrices de hashtag Je suis belle prennent souvent position et parfois mères d'enfants différents. Elles se battent pour qu'ils soient mieux acceptés, un engagement ancré dans la réalité. Engagement. La campagne hashtag Je suis belle est aussi un acte de militantisme. C'est d'abord une preuve de courage et de créativité, mais aussi un cri de survie, affirme Nicole-Anne Cloutier, psychologue et spécialiste de la communication sociétale. Les réseaux sociaux donnent un espace de respiration comme une soupape. Ils sont aussi des vecteurs de changement, notamment grâce à leur fort impact de conscientisation. Cette initiative peut sembler être une démarche narcissique, mais ce n'est pas seulement ça. S'exprimer permet d'avoir un sentiment de pouvoir, alors qu'avant, ces femmes se sentaient peut-être impuissantes. L'expression de soi est un point de départ qui peut mener à un engagement. De nombreux mouvements sociaux sont nés sur les réseaux sociaux. Pour autant, l'initiative aura-t-elle un réel impact? André Mondou, sociologue et professeur à l'École des médias de l'UQAM, met en garde contre l'illusion d'agir parce qu'on s'exprime sur les réseaux sociaux. Se dire ne signifie pas être entendu, être compris ou encore agir, révèle-t-il. Il ne faudrait donc pas que l'engagement se limite à poster une photo sur Facebook. Pour être plus qu'une déclaration d'intention, le geste devrait être suivi d'actes plus concrets. Sinon, il se pourrait que cela reste dans la sphère de l'hyper-individualisme, de la nouvelle dictature de l'auto-expression et du réel qui a préséance sur toute autre valeur. Poussé à l'extrême, on pourrait voir des gens qui souffrent d'obésité morbide proclamer sur les réseaux sociaux qu'ils s'assument bien comme tels et appeler les autres à faire de même, alors qu'il y a là un danger réel, souligne le professeur. Tout n'est pas acceptable parce que je le décrète.
Alors, quel engagement cherche-t-il? C'est le mystère qu'on aimerait tout pouvoir percer quand on cherche l'âme sœur en ligne. Selon l'équipe de l'appli américaine Clover, qui s'est amusée à compiler le type de relation recherchée parmi ses 33 000 utilisateurs, le métier des candidats pourrait nous mettre la puce à l'oreille. Ingénieur, policier, pharmacien, qui est le plus enclin dans tout ce groupe à s'engager dans une relation sérieuse? Les résultats de son enquête, hommes et femmes, confondu. Alors, les relations des gens qui cherchent l'amitié, ce sont les médecins et les avocats. Les aventures, autant hommes que femmes, des comédiens et des ingénieurs. Des relations sans engagement, on y retrouve un grand nombre journalistes, policiers, enseignants, relationnistes, scientifiques, publicitaires, travailleurs de la construction et musiciens. Et finalement, ceux qui aimeraient bien se trouver un partenaire ou une âme sœur pour une relation sérieuse, on y retrouve pharmaciens, designers, psychologues, programmeurs, comptables et personnel infirmier. Thank you.
Je reviens sur la bière, un accord mais bière qui nous est suggéré par Mireille Allard, la brasseuse. Bisque de crabe avec brocoli et brie et la double blanche à la camomille de la microbrasserie Le Naufrageur. Bonne dégustation. Nous voici rendus donc à la fin de l'émission. Je voulais remercier Louise Mercier, Daniel Rioux et...